Bien.
Je vous remercie tous d'être là. Et pas encore las. Je vous avais laissé la dernière fois à la veille du sommet de White River. Donc, c'est un sommet organisé aux États-Unis à proximité à 20 kilomètres de Washington dans la Maryland pour tout simplement renégocier le contenu des accords d'Oslo II. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment une progression dans la négociation. Ce sommet débute le 15 octobre 1998. Le principe adopté, c'est que rien ne sera définitif, rien ne sera conclu avant que tout ne soit conclu. Nothing will be agreed until everything was agreed. C'est un principe de diplomatie qui avait été largement utilisé dans les négociations avec les Soviétiques sur l'armement nucléaire. Donc, tant qu'il n'y a pas une touche finale, rien n'a été décidé. Ce qui compte évidemment pour les Américains, c'est d'obtenir un accord et on va jouer du côté américain sur les honneurs accordés à Yasser Arafat, traité en égal de Netanyahou, ce qui devrait l'amener à être plus complaisant en quelque sorte. Le 15 octobre étant un jeudi, on escompte que le sommet sera terminé le dimanche. Et on doit voir aussi tout l'effort fourni par Bill Clinton, puisque nous sommes à moins de 3 semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et en dépit de la charge politique, le président des États-Unis fera régulièrement l'aller-retour entre le centre de conférence et la Maison-Blanche, tandis que la secrétaire d'État, Madeleine Albright, et l'équipe des négociateurs sera là de façon permanente. Le premier jour, les Américains assistent auprès d'Arafat sur le volet sécuritaire, en expliquant que tant qu'il n'y aura pas d'accord sur la sécurité, il n'y aura pas d'accord israélien sur le redéploiement. Et Arafat renvoie à l'accord dit oral que les Palestiniens ont conclu avec le chef de la CIA, George Tenet, à la veille du sommet. Du côté des Palestiniens, des Israéliens, pardon, les Américains abordent la question du transfert des territoires de la zone B à la zone A et la question du redéploiement. Le premier ministre israélien refuse de traiter de ces questions. Donc ça, c'est les premières heures de l'après-midi. Le soir, on se rappelle qu'aux États-Unis, on dîne tôt. Au dîner, on traite de façon informelle des questions de sécurité. Et Arafat répond à Netanyahou que de nombreux Palestiniens sont victimes de la violence des colons israéliens. Netanyahou réplique qu'ils sont jugés par les tribunaux israéliens et qu'Israël est un état de droit, mais le Palestinien lui réplique qu'ils sont immédiatement remise en liberté. Il faut dire que les deux propositions sont vraies dans la majorité des cas. Le second jour du sommet, les négociateurs américains, assurés d'avoir un plan de sécurité proposé par les Palestiniens, se préparent à la confrontation avec Netanyahou. La première partie du sommet de la journée est consacrée à un déjeuner de travail entre Netanyahou et Arafat. L'Israélien veut concentrer l'effort diplomatique sur l'accord en discussion, mais non sur la suite à en donner. Et il exige la réunion du Conseil national palestinien pour modifier la charte, ainsi que la livraison aux autorités judiciaires israéliennes de 13 policiers palestiniens accusés d'avoir tué des Israéliens. De plus, un certain nombre d'autres noms sont fournis par les Israéliens, ce qui fait que finalement la liste des gens demandés à extrader comporte 30 noms. Blaim Arafat répond que ces accusations sont fondées sur des on-dit données par des informateurs, et il supporte très mal que Netanyahou utilise l'expression Judée-Samarie et non Cisjordanie, West Bank en anglais. Et d'ailleurs, le premier ministre israélien se comporte avec un manque évident de courtoisie envers les Palestiniens. Donc, comme le ton commence à monter, Ross s'interpose et propose que les Américains analysent la validité de la liste. Quant à la réunion du Conseil national palestinien, on renvoie la question aux commissions qui doivent se réunir dans l'après-midi. Mais les commissions ne traitent que du sujet des deux voies de passage à établir entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Les Palestiniens exigent qu'elles soient dites sûres, c'est-à-dire sans interférence israélienne, mais les Israéliens, eux, veulent des conditions de sécurité et un rappel de leur souveraineté. C'est toute la question de savoir la nature juridique de ces voies de passage. Elles sont-elles en quelque sorte en territoire israélien, mais en situation d'extraterritorialité ou non? Dans le domaine économique, les Palestiniens voudraient une renégociation du protocole de Paris pour leur permettre de commercer librement avec la Jordanie, mais on ne progresse pas. Et puis, on est vendredi soir, c'est le début du Shabbat. Donc, les négociations sont interrompues, puisque les Israéliens sont en arrêt, si j'ose dire. La journée du samedi est consacrée à la délégation palestinienne. Il est maintenant clair que les Israéliens veulent plus que le texte oral convenu. Ils veulent les 30 noms, un contrôle de la liste des prisonniers libérés, l'élimination des armes dites illégales sous supervision américaine et une réduction des effectifs des services de sécurité palestiniens. Tout ça est inacceptable pour les Palestiniens et donc la négociation est bloquée sur ce sujet en dépit de l'arrivée de George Tenet qui représente la CIA. En bonne diplomatie, les Palestiniens sont prêts à céder sur la substance, mais non sur la forme, afin de ne pas apparaître comme des supplétifs d'Israël. Et inversement, Netanyahou veut une victoire symbolique, montrant qu'il a obtenu bien plus que les travaillistes en matière de sécurité. Les Américains, assurés de la substance, comptent obtenir suffisamment de Netanyahou en matière d'engagements territoriaux pour conduire ensuite les Palestiniens à céder plus sur la forme. C'est la manœuvre qu'esquisse Clinton au coucher du soleil, après le coucher du soleil, puisque le Shabbat se termine à ce moment-là, et donc les Israéliens reviennent dans la négociation. Mais les Israéliens, très méfiants des discussions entre Américains et Palestiniens, se rejettent les assurances transmises par les Américains et exigent que ce soit directement les Palestiniens qui les expriment. Donc, Tenet doit obtenir des Palestiniens un texte écrit. Netanyahou envisage alors un accord partiel contre le redéploiement des 13%, le contenu du texte oral, le transfert de 14,2% de la zone B à la zone A, et en échange, toutes les exigences sécuritaires israéliennes et la réunion du Conseil national palestinien. Clinton fait comme s'il avait le texte dans la poche et s'adresse maintenant à Arafat pour obtenir un texte satisfaisant en matière de sécurité. Le 18 octobre, c'est Darlan, donc le chef de la sécurité palestinienne dans la bande de Gaza, qui défend avec âpreté les positions palestiniennes. Après tout, c'est sa position à Gaza qui est en jeu. Ross pense pour un accord partiel contre l'avis d'Albright et de Sandy Berger, donc le conseiller à la sécurité nationale. Les deux derniers voudraient que Clinton présente un accord global à prendre ou à laisser. Clinton, lui, choisit la voie moyenne d'un entretien avec Netanyahou qui s'en tient à la solution d'un accord partiel. À minuit, il voit Ariel Sharon qui défend la même ligne et ajoute une demande de libération de Jonathan Pollard, le juif américain arrêté pour espionnage au profit d'Israël et condamné à la prison à perpétuité. Quant à Arafat, il refuse un accord partiel mais se déclare prêt à rester le temps qu'il faut à White River pour arriver à un accord global. On a donc dépassé le délai prévu pour le sommet, mais Clinton s'accroche et on continue la négociation. Le lundi matin, on apprend qu'il y a eu un attentat à la grenade à Beersheba, blessant 67 Israéliens, dont plus d'une vingtaine de soldats, ce qui met Netanyahou en difficulté, parce qu'il risque d'être présenté comme n'ayant apporté ni la paix, ni la sécurité. Et c'est ce que Albright entreprend de lui faire comprendre après les condoléances d'usage. L'après-midi du lundi, Clinton montre combien il a assimilé les détails du dossier et propose des idées nouvelles pour passer outre aux oppositions existantes. Au dîner, Sharon refuse de serrer la main à Arafat et parle des Palestiniens à la troisième personne. Ensuite, Clinton explique à Netanyahou la nécessité de renforcer la position d'Arafat par rapport aux radicaux de son camp et à Arafat le besoin impérieux de trouver une solution à la question de la réunion du Conseil national palestinien. Le mardi, Clinton travaille à rédiger des solutions de compromis, tandis que Tenet finit par obtenir un avant-projet palestinien en matière de sécurité, donnant à quelque sorte à la CIA un pouvoir d'arbitrage, ce qui est la solution la plus satisfaisante pour les Palestiniens. Les documents sont ensuite transmis aux Israéliens qui, selon l'engagement pris, doivent en avoir la primeur. Netanyahou relance alors le dossier Pollard. Ross ne voudrait envisager sa libération que dans le cadre de l'accord sur le statut permanent. Néanmoins, Clinton se montre enclin à céder si cela permet d'obtenir maintenant un accord. Consulté, George Tenet, au nom de la communauté américaine du renseignement, annonce qu'il démissionnera si Pollard est libéré. Le mercredi matin, les Israéliens ne se rendent pas aux séances de négociation, puis font ostensiblement leur bagage. Les Américains ne sont pas impressionnés. S'ils étaient sérieux, ils seraient déjà partis. La manœuvre fait ainsi long feu, mais Netanyahou communique à la presse que la délégation israélienne partira à moins que les Palestiniens ne cèdent sur la livraison des 30 personnes et sur le Conseil national. Il est obligé de s'excuser, puisqu'évidemment, dans ses sommets, il y a embargo des informations, les Américains ayant le monopole des déclarations de presse. L'ensemble du texte américain est maintenant transmis aux Palestiniens. Et le jeudi 22 octobre est le dernier jour des négociations. Clinton est décidé à en finir. La séance commence à 10h30 du matin et va durer 21 heures d'affilée. Un métier très pénible, diplomate. La question de l'aéroport de Rafah dans la bande de Gaza est d'abord réglée. Les Israéliens auront le droit de fouiller les avions sauf celui d'Arafat. Les Américains règlent ensuite la question des effectifs de la police palestinienne. Ils seront réduits à 30 000 hommes et la CAI sera chargée de leur formation. Il y aura ouverture d'une voie de passage entre Gaza et Hébron. Une solution élégante est trouvée pour le Conseil national palestinien. Le plus grand nombre possible de personnalités palestiniennes sera réuni à Gaza en présence de Bill Clinton et ils voteront à main levée les résolutions que l'on proposera. Sur la question du troisième redéploiement israélien, une formule astucieuse et ambiguë est trouvée. Je cite, « Une commission sera établie pour étudier la troisième phase et sa relation avec le statut permanent. » Pour les Palestiniens, cela veut dire qu'il est séparé du règlement final, et pour les Israéliens, l'inverse. À 17 heures, le processus se bloque sur le problème de la libération des prisonniers palestiniens. Netanyahou n'envisage que des fins de peine et des droits communs. Alors, les Américains font un geste théâtral. Ils font venir le roi Hussein, qui est traité dans un hôpital de la région pour son cancer. Il apparaît épuisé par la maladie et par la chimiothérapie. En raison de l'affaiblissement de son organisme, des mesures drastiques de précaution sont prises pour lui éviter toute contamination microbienne. Vous voyez sur la photo, on utilise des gants pour lui serrer la main. Le monarque, après s'être fait expliquer par Clinton l'état de la situation, adjure les participants. L'histoire les jugera tous et les désaccords séparant les parties sont petits par rapport à l'ampleur des enjeux. Après l'accord, les deux côtés reverront l'affaire et ne se rappelleront même pas les problèmes. Il est maintenant temps de finir et de s'acquitter des responsabilités envers ces peuples et en particulier envers les enfants. En dépit de l'émotion générale, le débat s'enlise de nouveau. Arafat voudrait 1000 libérations de prisonniers, Netanyahou n'en accepte que 500. À 2h30 du matin, un esclandre se produit entre les deux hommes sur l'exigence de procéder à des arrestations de membres des services palestiniens. Netanyahou a manifestement provoqué Arafat. Clinton explose de colère. Il explique à son entourage que ce salaud ne veut pas d'un accord, en anglais « son of bitch », sob, enfin plus exactement, enfin, c'est ce que ça veut dire en anglais. Il a tenté d'humilier Arafat et moi, que diable attend-il qu'Arafat fasse dans cette situation ? What the hell does he expect ? Dit-il en anglais. Clinton prend Netanyahou à part pendant trois quarts d'heure. Il obtient de lui la libération de 750 prisonniers, dont 340 seraient des politiques. Il reste à finaliser l'ensemble du document. Les 30 personnes de la liste israélienne, qui sont maintenant d'ailleurs 28, seront arrêtées au fur et à mesure de l'accomplissement des étapes successives de l'application de l'accord, mais resteront en prison du côté palestinien. On se sépare à 6h30. Du matin. Reste encore le cas Pollard. Netanyahou est persuadé qu'il a obtenu sa libération, mais Clinton doit lui faire comprendre que tout ce qu'il peut le faire est un réexamen de son dossier juridique. Les deux hommes se rencontrent au début du vendredi après-midi. Netanyahou cède, mais annonce qu'il réduira le nombre de prisonniers politiques à libérer et l'information est transmise à Arafat. Alors, tout ce beau monde épuisé se rend à la Maison Blanche pour signer à toute vitesse l'accord, puisqu'on est un vendredi soir et qu'il faut qu'il soit signé avant le coucher du soleil pour cause de Shabbat. Les participants, dont le roi Hussein alternent le ton grave et les plaisanteries. L'impression générale est qu'une page a été tournée. Donc, ce qu'on appelle le mémorandum, pas l'accord, mais le mémorandum de White River, se présente comme un ensemble de mesures pour faciliter l'application des accords précédents afin que les parties israéliennes et palestiniennes puissent assumer plus efficacement leurs responsabilités réciproques, y compris celles ayant trait respectivement à des redéploiements supplémentaires et à la sécurité. C'est-à-dire que c'est un mémorandum explicatif d'Oslo II. Mais pas plus. Implicitement, la réciprocité ainsi évoquée est moins celle de la terre contre la paix que celle de territoire contre la sécurité. Les mesures seront appliquées dans une démarche parallèle et par étapes. Le premier point est celui des redéploiements. Je cite, « Conformément à l'accord intérimaire et aux accords consécutifs, la mise en œuvre par la partie israélienne des premiers et seconds redéploiements consistera à transférer à la partie palestinienne 13% de la Cisjordanie de la zone C, comme suit. 1% à la zone A et 12% à la zone B. La partie palestinienne a informé qu'elle allouerait une zone équivalent à 3% de la zone B susnommée, qui serait désignée zone verte et ou réserve naturelle. La partie palestinienne a également informé qu'elle agira en conformité avec les critères scientifiques établis et donc qu'aucun changement n'interviendra dans le statut de ces zones sans préjudice aux droits des habitants de ces zones, y compris les Bédouins, tandis que ces critères n'autorisent pas de nouvelles constructions dans ces zones, les routes et les bâtiments existants pourront être entretenus. En clair, toute la construction est gelée sur ces 3% de la Cisjordanie, y compris les questions posées par l'accroissement naturel de la population arabe et bédouine. C'est ce qu'on appelle de l'écologie. En tant que partie de la, je cite, en tant que partie de l'application déjà mentionnée des premiers et seconds redéploiements, 14,2% de la Cisjordanie de la zone B deviendra zone A. Un comité, oui, c'est toujours très pénible de lire les documents, surtout qui sont très mal formulés, puis il faut comprendre la fatigue des acteurs. Là, vous avez des jeux de pourcentage en permanent, mais il est toujours sous-entendu que ce sont des pourcentages de la Cisjordanie et pas des pourcentages des zones. C'est-à-dire, on vous dit 13% de la zone A, il faut comprendre 13% de la Cisjordanie se trouvant en zone A. Et ainsi de suite. C'est parce qu'on ne sait plus au bout d'un certain temps de quoi on parle quand on a ces successions de données. Un comité sera en charge de la question du troisième redéploiement. Les États-Unis seront régulièrement tenus au courant. Et il n'est pas question d'une relation entre les redéploiements et le statut final. Le second point est celui de la sécurité et dans lequel les Palestiniens s'engagent de nouveau à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher les actes de terrorisme, les crises et les actes d'hostilité à l'encontre de la partie israélienne. Et les Israéliens s'engagent à la réciprocité sur ce point. C'est donc un succès palestinien. Mais on voit très bien qu'on est largement dans le vide, puisque la suite marque. Les deux parties ont également accepté de prendre des mesures judiciaires à l'encontre des contrevenants opérant sous leur juridiction et d'empêcher toute incitation des parties l'une contre l'autre de la part d'organisations, de groupes ou d'individus sous leur juridiction. Les deux parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt vital de combattre le terrorisme et de lutter contre la violence. Elles reconnaissent aussi que la lutte contre le terrorisme et la violence doit être globale, en ce sens qu'elle doit traiter du terrorisme, de sa structure de soutien et de l'environnement propice au soutien du terrorisme. Donc, si vous passez au décodeur, ça veut dire que c'est l'infrastructure associative, sociale et culturelle de la mouvance islamiste qui est visée. Elle doit être continue et constante sur la longue durée et le travail contre le terrorisme et ses structures ne saurait connaître de répit ou de pause. Cette lutte doit être menée en coopération car aucun effort ne saurait être pleinement efficace sans coopération israélo-palestinienne et sans un échange continu d'informations, d'idées et d'actions. Les Palestiniens s'engagent à avoir une tolérance zéro contre le terrorisme et la violence. Ils doivent élaborer un plan de travail en liaison avec les États-Unis et un comité américano-palestinien se rencontrera toutes les deux semaines pour examiner les mesures prises pour éliminer les cellules terroristes et la structure de soutien qui planifie, finance, approvisionne et épaule le terrorisme. Alors, ce que ne mentionne pas l'accord, mais que tout le monde comprend, c'est que la partie américaine, c'est la CIA. Et on passe ensuite à un texte encore plus contradictoire. Au cours de ces réunions, la partie palestinienne informera pleinement les États-Unis des actions engagées pour mettre hors la loi toute organisation ou branche d'organisation selon la nécessité de caractère militaire, terroriste ou violent et leur structure de soutien et pour les empêcher d'opérer à partir de la zone placée sous sa juridiction. Donc là, on peut comprendre qu'il ne s'agit que de l'aile militaire du Hamas et non pas de son aile civile. Ensuite, à des fins d'enquête complémentaire, de poursuite et de châtiment de toutes les personnes impliquées dans des actes de violence et de terreur, la partie palestinienne appréhendra les individus spécifiquement soupçonnés d'avoir perpétré des actes de violence et de terrorisme. Un comité américano-palestinien se réunira pour examiner et évaluer les informations pertinentes susceptibles d'influer sur les décisions au sujet des poursuites, des peines et autres mesures judiciaires affectant le statut des individus soupçonnés de perpétrer ou de couvrir des actes de violence et de terreur. Et ainsi de suite, toutes les mesures, et on dit ensuite, ce décret sera comparable à la législation existante en Israël à ce sujet. Ce qui laisse rêveur, puisqu'on ne sait pas s'il s'agit d'une référence aux lois israéliennes interdisant de proférer des menaces à l'encontre de l'État hébreu ou d'un décret comparable à l'absence de toute législation en Israël interdisant l'incitation anti-arabe, personne n'ayant été condamné pour avoir évoqué le péril arabe, demandé le transfert de la population palestinienne ou même avoir dit « mort aux Arabes ». Suite de quoi, dans la hiérarchie, vous avez la constitution d'un comité américano-israélo-palestinien qui passera en revue les cas éventuels d'incitation à la violence et au terrorisme. Les deux parties s'engagent à une coopération bilatérale complète en matière de sécurité qui sera continue, intensive et globale. Et la commission américano-israélo-palestinienne se réunira au plus haut niveau au moins une fois tous les 15 jours pour évaluer les informations et les coopérations. Et tout ça, évidemment, sera mis en œuvre dans le respect des normes internationalement acceptées à propos des droits de l'homme et de l'état de droit, ce qui laisse un peu rêveur. En matière économique, on s'engage à établir promptement un parc industriel à Gaza, à ouvrir l'aéroport international de Gaza, à reprendre la négociation pour les passages garantis entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et la construction du port de Gaza. Et enfin, on annonce la reprise des négociations sur le statut permanent. Je cite, « Les deux parties reprendront immédiatement les négociations sur le statut définitif sur une base accélérée et devront faire un effort délibéré pour parvenir à l'objectif commun de conclure un accord le 4 mai 1999. Les négociations se dérouleront de façon continue et sans interruption. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils étaient disposés à faciliter ces négociations. Enfin, les parties reconnaissent la nécessité de créer un environnement positif pour les négociations. Les deux parties s'engagent à ne pas prendre de mesures qui changeraient la situation en Cisjordanie dans la bande de Gaza, conformément à l'accord intérimaire. Pour les Palestiniens, ça veut dire le gel de la colonisation. Pour les Israéliens, la non-proclamation d'un État palestinien. Et le reste du mémorandum est consacré à un échéancier extrêmement précis de l'application de l'accord semaine après semaine. Wild River est avant tout un succès de la diplomatie américaine qui a réussi sa relance du processus de paix. Cette fois, le Likoud a bien été contraint d'entrer dans la logique des accords d'Oslo. Si Netanyahou a obtenu plus que les travaillistes en matière de sécurité, son comportement l'a conduit à impliquer toujours plus les États-Unis dans les détails concrets de l'accord et de leur application, alors que les travaillistes avaient refusé tout ce qui pouvait apparaître comme une médiation américaine. Les États-Unis se trouvent ainsi en position d'arbitre, rapprochant les positions, voire déterminant à qui faire porter la responsabilité de l'échec. Mais il est vrai que Netanyahou compte sur le soutien de la droite américaine et du Congrès et ne croit pas en la possibilité d'un affrontement entre lui et l'administration Clinton. Dès le jour de la signature, 11 journalistes étrangers venus interviewer le cher Yassine sont arrêtés par la police palestinienne, décidés, semble-t-il, à limiter l'expression politique du Hamas, qui, il est vrai, a dénoncé l'accord. Et il y a quelques arrestations dans les rangs islamistes. L'opinion majoritaire dans les territoires est peu enthousiaste. On trouve les résultats insuffisants et on ne croit pas à la volonté israélienne d'appliquer les accords. On s'inquiète aussi des risques que comporte le texte pour les libertés publiques. Après la mort d'un manifestant dû à un tir de la police palestinienne, le Fatah lui-même condamne la répression. Son leader pour la Cisjordanie, Marwan Barouti, s'en prend au rôle de la CIA. Ceux qui se trouvaient à Washington sont tous d'anciens combattants pour la liberté, ils conservent notre confiance, mais il y a au sein de l'autorité des traîtres qui servent les intérêts d'Israël et des États-Unis. Du côté israélien, même genre d'écho, les colons organisent des manifestations de protestation, Netanyahou est traité de traître, le Shin Bet exige des mesures de sécurité renforcées pour le Premier ministre. Les soutiens parlementaires des colons déposent immédiatement une motion de censure à la Knesset qui est repoussée le 26 octobre du fait que les travaillistes approuve l'accord comme la plus grande partie de l'opinion publique, 74% d'approbation selon un sondage. Mais ce n'est que partie remise, le leader travailliste Barak veut la tenue d'élections anticipées et va jusqu'à dire que Netanyahou a trop cédé à White River. Quant à l'intéressé, il cherche à gagner du temps en retardant la présentation de l'accord au gouvernement israélien. Il se refuse à adopter une ligne centriste fondée sur l'application de l'accord et qui pourrait conduire à une modification de la majorité parlementaire allant dans le sens d'un gouvernement d'union nationale. Loin de vouloir concentrer sa ligne politique sur l'accord, dès le lendemain de la signature, il en prend des distances, tentant d'obtenir de nouvelles assurances des Américains. Cela pose une nouvelle fois la question de sa sincérité. Son attachement au maintien d'une coalition de droite dure ne trahit-il pas la réalité de ses intentions? Il refuse toute comparaison avec Rabin. Je cite, « Nous ne poursuivons pas la route tracée par l'ex-gouvernement travailliste. Hier comme aujourd'hui, je pense qu'Oslo était un mauvais accord que nos engagements internationaux nous obligent à honorer, mais nous le faisons en en limitant le mieux les inconvénients. » La tension est forte dans les territoires où un Israélien puis un Palestinien sont tués dans des circonstances non élucidées. Le 29 octobre, un attentat suicide vise l'entrée de la colonie de Gush Katif dans la bande de Gaza, faisant de mort un soldat israélien et l'auteur de l'attentat. Le nombre de victimes aurait pu être plus grand, un bus scolaire ayant été visé. Cher Yassine, que vous voyez ici, est mis en résidence surveillée. L'aile militaire du Hamas menace de s'en prendre à la police palestinienne. Je cite, La poursuite de la répression par l'autorité palestinienne et son assistance à frapper les fils du Hamas et les brigades al-Qassam risquent de les inciter à ne plus observer les consignes de leurs dirigeants et à retourner leurs armes sans la moindre nécessité contre les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Quant au Hezbollah, par la voix de son secrétaire général, Hassan Nasrallah, il lance un véritable appel au meurtre d'Arafat. Je cite. Ce qui se passe actuellement est plus grave que la déclaration Balfour. Aujourd'hui, il y a un traître qui offre la terre de Palestine aux sionistes, assassins, racistes et barbares, au nom de 50 années de sacrifices et de lutte. Cette main qui abandonne ne serait-ce qu'un grain de sable de la terre de Palestine doit être tranchée par le peuple palestinien. N'y a-t-il pas au sein de la police palestinienne un homme dont le frère a été tué par les Israéliens et dont l'honneur a été bafoué par les sionistes ? N'y a-t-il pas un homme qui ait la dignité d'aller voir Arafat, comme l'a fait Khaled Islamboulé, celui qui a assassiné Sadat, pour dire qu'il est une humiliation pour la Palestine, les Arabes et l'Islam? J'appelle tout Palestinien ayant un couteau, une grenade, une arme ou une petite bombe à aller tuer ces prochaines semaines les Israéliens et l'accord de White Plantation. Il n'y a pas de civils en Israël. Cet accord sera aboli en tuant les soldats et les colons israéliens. Remarque que ce genre de déclaration d'Nasrallah renforce plutôt la côte d'Arafat auprès des Américains. L'administration Clinton sent renforcer des élections de mi-mandat. Les républicains conservent la majorité au Congrès, mais les démocrates ont progressé nettement à la Chambre des représentants. La perspective d'une destitution, impeachment, de Clinton s'éloigne. L'accord est aussi reçu froidement dans le monde arabe. À l'issue d'un entretien avec Hafez al-Assad à Sharm el-Sheikh, Moubarak marque que le processus de paix ira nulle part si on substitue au principe de la terre contre la paix celui de la terre contre la sécurité. La situation moyen-orientale se complique du fait que le régime de Saddam Hussein vient de renvoyer les inspecteurs de l'UNSCOM. Il a parfaitement perçu que la volonté américaine n'est pas de désarmer l'Irak, ce qui correspond à la réalité, mais de renverser le régime. Quel que soit le degré de respect des résolutions de l'ONU, il ne peut donc être question d'espérer une levée de l'embargo, qui est en fait un blocus en dépit de ses atténuations récentes. Saddam Hussein peignait aussi l'opacité du fonctionnement de son système, qui fait que même certains de ses partisans croient à l'existence d'armes de destruction massive. La volonté de maintenir une certaine ambiguïté sur ce sujet afin d'exercer une certaine forme de dissuasion par rapport à l'Iran et à son allié syrien, qui cherche à le renverser, et la perte définitive de crédibilité de Saddam Hussein due à son comportement durant l'été 1990, fait qu'il n'est pas crédible quand il dit qu'il n'y a plus d'armes de destruction massive. Le climat de confiance péniblement obtenu à White River se dégrade rapidement du fait que, outre les tergiversations de Netanyahou, on donne le feu vert à une nouvelle construction pour l'établissement de Juifs à Jérusalem-Est, ainsi que l'agrandissement de plusieurs colonies en Cisjordanie. Pour les Israéliens, il s'agit de mesures dites techniques, alors que pour les Palestiniens, c'est une violation de l'accord. Et l'accord qui n'a toujours pas été soumis au gouvernement israélien. Donc c'est Arafat qui apparaît comme le bon élève et Netanyahou comme le cancre. Et Netanyahou va même de nouveau jusqu'à exiger publiquement l'arrestation des fameux 30 Palestiniens. Pour les Américains, c'est une violation des accords pris. Et les Israéliens répliquent en rendant public l'échéancier qui aurait dû rester secret, ce qui provoque la colère de Darlan. Le 6 novembre, une voiture piégée explose à Jérusalem, faisant 2 morts et 21 blessés, dont un grave. Il s'avère rapidement que les 2 morts sont les auteurs de l'attentat, victimes d'un accident du travail. Comme on dit en Israël, ils sont sautés trop prématurément. Cela retarde une nouvelle fois la discussion au gouvernement israélien. L'autorité palestinienne condamne vivement l'attentat qui vise le processus de paix et intensifie les mesures contre le Hamas et le djihad islamique qui ont tous deux revendiqué l'opération. Les accusations visent explicitement l'Iran qui voudrait transformer la Palestine en nouvel Afghanistan. Ce n'est pas le président modéré Khatami qui est mis en cause, mais le guide suprême Khamenei. Il est vrai que ce dernier avait traité Arafat de traître minable et de laquais des sionistes. Ce n'est que le 11 novembre que le gouvernement israélien approuve l'accord de Wai par 8 voix contre 4 et 5 abstentions. Mais encore, c'est un accord conditionnel qui insiste sur la mise en œuvre des obligations palestiniennes. Chaque étape sera resoumise à vote de la part du gouvernement israélien et on remet en cause certaines des clauses de l'accord de Wai. Donc je saute sur ces remises en cause qui sont assez longues. Et on continue les mesures unilatérales, les décisions israéliennes, c'est en particulier. Le gouvernement continuera de poursuivre sa politique de renforcement et de développement des communautés en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza sur la base d'un plan pluriannuel. Le gouvernement entreprendra la construction de routes de sécurité en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, ce qui implique de nouvelles confiscations de terres palestiniennes. Le gouvernement exprime son espoir que les dispositions du mémorandum de White River seront intégralement appliquées et que cet accord contribuera au progrès de la paix. En fait, il ne reste plus rien. Et évidemment, l'autorité palestinienne s'en tient au contenu signé à White River et refuse les addendas unilatéraux israéliens. Et ils ont plutôt le soutien des Américains. Et de son côté, le gouvernement israélien procède à des appels d'offres pour la relance des constructions à Haoma dans la proximité de Jérusalem. D'où protestation. Excusez-moi. Désolé. D'où protestation palestinienne. En fait, la stratégie d'Arafat est de s'en tenir à des manifestations verbales et d'engranger le maximum de cessions effectives de la part des Israéliens, puisque sa priorité absolue est d'obtenir le redéploiement annoncé de l'armée israélienne. À la mi-novembre 1998, les États-Unis multiplient les préparatifs d'une action de grande envergure contre l'Irak. Les procédures diplomatiques ont toutes échoué. Mais Clinton ne renonce pas à sa visite prévue à Gaza, indispensable pour l'application du mémorandum de Wai. Alors que de nouveau la population israélienne s'inquiète du risque de tir de missiles irakiens, voire d'utilisation d'armes chimiques, Dennis Ross est envoyé en Israël. Il ne faut pas que la nouvelle crise irakienne gèle l'application des accords. On s'attend à une attaque imminente de l'Irak, mais au dernier moment, Saddam Hussein semble plier et accepter un retour des inspecteurs de l'ONU. Les bombardiers américains sont rappelés à 20 minutes de frapper leurs objectifs. Mais ce n'est que partie remise. Dans ce contexte difficile, Ross réussit à rapprocher les positions. Les Israéliens communiquent le contenu géographique du redéploiement annoncé, mais déjà retardé par rapport à l'échéancier initial. Il peut rentrer aux États-Unis tout en laissant une partie de son équipe sur place. Pendant que la Knesset vote à une large majorité la ratification du mémorandum, 75 députés de la majorité de l'opposition sont pour, 19 sont contre, dont 2 ministres et 9 abstentions sur 120 membres de la Knesset, 7 ministres n'ayant pas participé au vote. Alors que la majorité gouvernementale israélienne commence à se disloquer, la question des prisonniers se repose. La première fournée des libérés, 250 personnes, dont 150 droits communs, sont libérées. cette affaire, ce qu'on appelle en général, ce sont des voleurs de voitures, parce que durant toute cette période, il y a un trafic très impressionnant de vols de voitures en Israël qui sont renvoyés et désossés, en quelque sorte, dans les territoires palestiniens. Et cette délinquance venue des territoires a aussi beaucoup affecté la population israélienne dans cette période. Mais tout ça traduit le fait que pour les Israéliens, ces Palestiniens sont tous des criminels, voire des terroristes, alors que pour les Palestiniens, ils sont des résistants. Et il n'y a pratiquement pas de famille dans les territoires qui n'a pas un membre dans une prison israélienne. D'où une explosion de colère et de manifestations de protestation. Néanmoins, le 20 novembre se déroule le premier déploiement du redéploiement, si j'ose dire, le plus facile parce qu'il comprend un transfert de 7,1% de la Cisjordanie de la zone B à la zone A et de 2% de la zone C à la zone B, c'est-à-dire 7 villages. Pour l'essentiel, ça ne concerne donc que des dispositifs de sécurité et non d'administration. Le 24 novembre, l'aéroport de Gaza est ouvert à la navigation aérienne internationale. Mais c'est un manque de pratique absolument. Les passagers doivent ensuite se rendre en autocar au terminal frontalier de Rafah pour faire les formalités d'entrée. Les Israéliens fournissent une liste noire de Palestiniens interdits de voyager à l'étranger pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire, dans la plus grande partie des cas, des punitions pour des activités politiques. Cela vise essentiellement des opposants au processus de paix. Le comité tripartite contre les incitations se réunit pour la première fois le 24 novembre. La séance est essentiellement consacrée à définir les procédures de travail. Les séances suivantes montreront la vanité de vouloir définir les incitations puisqu'elles découlent des nationalismes israéliens et palestiniens et renvoient à la question des légitimités. Le Liban s'est rappelé à l'attention générale au début du mois de novembre, quand il a été confirmé par la FINUL que des localités israéliennes voisines de la frontière se sont emparées de terres arables au Liban Sud pour les épandre chez eux. Le gouvernement libanais proteste contre ce vol de terres et demande à l'ONU et à l'Union européenne d'intervenir. Un diplomate israélien reconnaît les faits, mais affirme que ce transfert a eu lieu à des fins de construction et non d'agriculture. Et Israël promet de mettre fin à ce genre d'entreprise assez inédite par ailleurs. C'est-à-dire, on n'aura pas la terre enlevée, c'est la terre arable, enlevée dans les territoires libanais. Après la perte de 7 soldats au Liban Sud dans la seconde quinzaine de novembre, ce qui porte les pertes israéliennes à 22 dans l'année, le gouvernement israélien s'interroge ouvertement sur la stratégie à suivre. Le Hezbollah utilise des mines particulièrement bien dissimulées et placées sur les voies de passage de l'armée israélienne. Les mesures de précaution entravent considérablement la mobilité des troupes israéliennes, mais les positions statiques accroissent la vulnérabilité par rapport au bombardement. C'est là le piège dans lequel est enfermé l'armée israélienne. Le réseau de bombes, de mines que le Hezbollah place fait que l'armée ne peut plus être mobile. Elle se déplace que lentement pour pouvoir détecter les mines. Mais du coup, si elle reste en position statique, elle est identifiée par l'artillerie du Hezbollah et donc vulnérable par rapport à la résistance islamique. Les responsables de la sécurité sont farouchement opposés à un retrait unilatéral. Ils estiment que cela encouragerait le Hamas à relancer une vague de terreur. Les responsables militaires voudraient pouvoir conclure un accord avec la Syrie, mais cela rouvrirait la question du Golan. Sharon penche pour un retrait progressif accompagné d'actions de représailles au cas où la population israélienne serait attaquée. Plusieurs hommes politiques parlent ouvertement d'une destruction massive des infrastructures civiles du Liban en cas de représailles. Dans l'immédiat, durant la première quinzaine de décembre, l'armée israélienne multiplie les opérations au Liban, tandis que l'aviation survole les principales agglomérations libanaises. Il faut montrer la force israélienne et refuser tout ce qui peut apparaître comme des signes de faiblesse. Ayant été témoin plusieurs fois de survols aériens et de murs du son au-dessus de Beyrouth, je peux vous garantir que cela a suscité une haine dans toutes les catégories de la population libanaise. En Israël, Ehud Barak n'accepte pas la perspective d'un gouvernement d'union nationale, sauf après les prochaines élections qui les comptent empanter. Netanyahou réussit à obtenir le ralliement de sa majorité de David Levy et de ses 5 députés contre la promesse d'un poste ministériel, mais les négociations s'éternisent et finalement échouent. À la fin novembre, une nouvelle conférence des donateurs réunie à l'instigation des États-Unis réussit à récolter plus de 3 milliards de dollars de promesses pour les Palestiniens. En même temps, tous doivent convenir que depuis le début du processus de paix, le niveau de vie des Palestiniens n'a pas cessé de baisser. De fortes critiques sont portées sur la gestion de l'aide avec la multiplication des expertises internationales qui ne débouchent sur rien de concret sur le terrain. Israéliens et Palestiniens s'affrontent sur les questions des bouclages. Pour les premiers, c'est la réponse inévitable aux actes de terrorisme. Pour les seconds, ils conduisent à une asphyxie de l'économie palestinienne. On continue d'évoquer le moment où l'économie palestinienne deviendrait autosuffisante grâce à l'afflux de capitaux étrangers, tout en reconnaissant que le climat politique rend la Palestine peu attirante pour ce genre d'investissement. Et de ce fait, en cette fin d'année 1998, on peut dire que le processus de paix est de nouveau gelé quelques semaines après l'accord de White River. L'assassinat d'un Palestinien à coup de poignard à Jérusalem en début de décembre, point culminant d'une série d'attaques de ce genre, laisse supposer l'existence d'un tueur en Syrie juif dans la ville sainte. Puis ensuite, des violences sont exercées contre les passagers d'une voiture israélienne pris par hasard dans une manifestation à Ramallah pour la libération des prisonniers. Cette affaire est filmée et provoque une grande émotion en Israël. Netanyahou menace de mettre fin à l'application des accords si Arafat ne renonce pas publiquement à proclamer l'indépendance de l'État palestinien le 4 mai 1999. Et si l'autorité palestinienne n'accepte pas les modalités fixées par Israël pour la libération des détenus palestiniens et ne prend pas de sanctions contre les Palestiniens ayant participé aux violences de Ramallah. Évidemment, tout ça est rejeté par les Palestiniens. Et pour sauver la prochaine visite de Clinton, Ross est de nouveau renvoyé sur place. Au départ, Netanyahou avait vu avec intérêt la visite de Clinton à Gaza parce que cela contraindrait les Palestiniens à réviser définitivement la charte palestinienne. Mais maintenant, il s'est rendu compte que cela renforcerait considérablement la position internationale d'Arafat, consacrerait l'ébauche d'un État palestinien et marquerait que c'est bien la partie palestinienne qui respecte l'accord et non israélienne. De plus, il est plus que réticent à l'idée de voir aussi le président des États-Unis se rendre à Damas. Du côté d'Arafat, la marge de manœuvre est étroite. Il rappelle qu'il ne pourrait y avoir de paix sans constitution d'un État palestinien et que la police palestinienne réprime durement les manifestations organisées par le Fatah pour demander la libération des prisonniers. Dennis Ross tente de désamorcer la crise en définissant une catégorie plus large de personnes libérables. Il a le soutien des chefs de services de renseignement israéliens, mais Netanyahou refuse. Pour lui, la question est essentiellement politique et peut entraîner la chute de son gouvernement. Ross exerce aussi un chantage du côté palestinien. Si les manifestations ne cessent pas, la visite du président américain sera annulée pour raison de sécurité. Ross laisse son équipe sur place pour revenir d'urgence à Washington discuter avec le président. qui doit finalement faire face à une procédure d'impeachment, mais qui est convaincu que Netanyahou cherche une nouvelle fois à se dérober à ses engagements. Ross et lui conviennent que de nouvelles élections israéliennes sont inévitables, puisque les travaillistes, sûrs de l'emporter, n'accepteront pas de former un gouvernement d'union nationale sur la base de White River. Plus les Palestiniens apparaîtront comme vainqueurs lors de la visite de Clinton, plus les Israéliens seront forcés de bouger. Arafat a parfaitement compris le message. Le 10 décembre, le Conseil central palestinien, l'instance la plus importante de l'ONP après le Conseil national, confirme l'abrogation des clauses de la charte de l'ONP appelant à la destruction d'Israël, ceci par 81 voix contre 7 et 7 abstentions. Reste la question des manifestations. Le 11 décembre, deux jeunes Palestiniens sont tués par l'armée israélienne et leurs funérailles le lendemain sont l'objet de manifestations importantes. L'autorité palestinienne demande au Fatah d'arrêter les manifestations durant la visite du président américain et aux prisonniers de suspendre la grève de la faim qu'ils ont engagée. Pendant ce temps-là, l'opposition palestinienne, islamiste et marxiste, se réunit à Damas pour vilipender les capitulations d'Arafat. Dans les territoires, les mêmes mouvements appellent au boycott de la visite de Clinton, que vous verrez à la session suivante, puisque nous faisons une pause dans 5 minutes.